voix nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lainé rencontre Michel Virlogeux. Ce soir, le pont de Normandie et le viaduc de Millau.
Michel Virlogeux, bonsoir.
Bonsoir.
Nous arrivons au terme de notre semaine d'entretien avec l'ingénieur des ponts et chaussées, spécialiste mondialement reconnu de la construction, de la conception des ponts.
Oui.
Et ce soir, il sera question particulièrement de deux ponts qui disent quelque chose à tout le monde. Le pont de Normandie, qui a été inauguré en 1995, et le viaduc de Millau, qui a été inauguré en 2004. Concepteur et constructeur, vous êtes l'un des deux et pas les deux ?
Moi, je suis concepteur surtout. Hein. Mmh. Bon, alors évidemment, ça fait partie de la construction. Mais le constructeur, si on veut mettre les choses plus clairement, c'est plutôt l'entreprise. Hein, parce que quand on parle de conception, on parle beaucoup du concepteur, de l'architecte, oui, du maître d'œuvre. Mais il ne faut pas oublier les entreprises, parce que pour construire, il faut des entreprises et des bonnes.
Alors, commençons par le pont de Normandie. Pouvez-vous dire, Michel Virlogeux, où il se trouve, ce qu'il relie, pourquoi il était nécessaire et pourquoi il n'a pas été construit plus tôt, pourquoi il a fallu attendre?
Alors, le pont de Normandie, au départ, a été construit à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, parce que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre dépendait complètement, toute l'économie du Havre et de son port, dépendait complètement du pont de Tancarville. Parce que tout le trafic, où qu'il aille, allait partir, sauf vers le nord de la France, allait partir sur la région parisienne, sur l'ouest, par le pont de Tancarville. Or, tout le monde savait que le pont de Tancarville avait des petits soucis de durabilité. D'ailleurs, une fois que le pont de Normandie a été mis en service, nous avons remplacé les câbles de suspension du pont de Tancarville.
Qui était vieux de combien d'années ?
Il a été mis en service en 1959.
Oui, donc c'était pas vieux.
C'était pas très vieux, non. Mais il y avait des raisons bien particulières pour lesquelles il a fallu remplacer les câbles. Voilà. Mais on l'a fait sans qu'il y ait de danger. Donc au départ, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Havre qui voulait construire un autre pont pour ne pas risquer de se trouver bloqué en cas de fermeture de Tancarville. Et donc, au départ, le pont de Normandie, avait un objectif relativement local et de desserte sur le Grand Ouest. Un premier projet, on a commencé à parler de ce pont en 72-73, et le premier projet a démarré en 1976. À l'époque, il était prévu de faire une portée portée, c'est la distance entre les pylônes, hein, c'est donc la partie qui se suspend complètement dans le vide. Elle a été de 510 mètres à peu près, ce qui aurait été le plus grand pont du monde à l'époque. Mais avec un pylône et deux ou trois piles dans la Seine. Et puis, en 1978, c'était M. Raymond Barre qui était le Premier ministre, il a interdit à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre de lancer les travaux, plus exactement, il leur a interdit de lancer les emprunts parce qu'on était en pleine crise du pétrole. Donc, le projet s'est arrêté. En outre, il faut bien voir qu'à l'époque, on avait des taux d'intérêt extrêmement élevés, et donc ça aurait été très difficile de lancer le pont. Alors, le projet a été relancé en 1986 par Bertrand de Roubaix, qui était l'ingénieur de la direction départementale de l'équipement local, avec l'appui de M. Ruffnac, qui était le maire du Havre, et en profitant du fait que les taux d'intérêt avaient beaucoup baissé. Et donc, le projet est reparti. Et à ce moment-là, j'avais déjà travaillé sur le premier, mais en tant que petit ingénieur de base. Et là, j'ai pris la direction du projet. On m'a donné la direction du projet. Et à ce moment-là, si vous voulez, j'ai considéré qu'il était indispensable de franchir la Seine sans appui intermédiaire, parce que les appuis intermédiaires étaient en danger à cause d'un risque de choc de bateau. Hein, il y a eu pas mal d'accidents, peu de temps avant, de bateaux tapant dans des piles de ponts et faisant s'écrouler le pont. Alors ça a commencé par un pont en Tasmanie, près de l'Australie. Il y a eu un pont en Floride, le pont de Tampa. Il y a eu un pont en Suède, le Tyrone Bridge. Il y a eu une partie du pont du lac Maracaibo, renversée par des bateaux. Et donc c'était pas possible. En outre, si on mettait un pylône dans la Seine, il fallait le protéger contre le risque de battre par une île artificielle, et cette île artificielle aurait provoqué la sédimentation de la Seine et donc rendu beaucoup plus difficile son drainage, et le port de Rouen s'y serait opposé, parce que évidemment ça aurait limité les possibilités d'arriver des bateaux. Or le port de Rouen est le plus gros port céréalier français. Donc il fallait passer d'un seul coup. Et puis ensuite est arrivée la décision de construire l'autoroute A29. Et à ce moment-là, l'autoroute A29, eh ben, on l'a fait passer par le pont de Normandie parce qu'on avait directement le franchissement. Donc, avant même que le pont soit construit, son objectif a été changé. Alors, il faut être clair que peut-être si il avait décidé de faire l'autoroute A29 plus tôt, il aurait peut-être pas été exactement au même endroit, mais peut-être un tout petit peu plus à l'amont, mais bon, bref.
Et le fait que ça, si vous mettez une pile dans la Seine, ça peut gêner le port de Rouen. Oui. Est-ce que c'est vous qui y pensez et qui devez y penser, ou est-ce que c'est la mairie de Rouen qui entend parler du projet et qui...
Ben non, tout le monde entend parler du projet, oui, donc tout le monde était au courant. Tout le monde savait que la ville de Rouen n'avait pas du tout envie que se construise le pont de Normandie, parce que c'est automatiquement, c'est-à-dire il y a quand même une compétition économique entre Rouen et Havre qui est connue de tout le monde, c'est le béaba, donc tout le monde le savait, et donc tout le monde savait que le port de Rouen allait s'opposer à ça, et donc la manœuvre astucieuse a consisté à faire s'engager la ville de Rouen, qui a pris l'engagement de dire oui, ben on est d'accord si vous passez sans appui en rivière. Et à ce moment-là, clac, on a sorti le pont, le projet. Mais on ne l'avait pas sorti avant. Donc ça, c'était la manœuvre de Ruffnac et de Roubaix. Voilà. Donc, qui a permis donc, de le faire. Et du coup, si vous voulez, l'autoroute A29 est passée par là et non pas plus, vers Rouen.
Quel est le budget du pont de Normandie?
Alors ça, c'est une discussion très très difficile. Qu'est-ce que c'est que le budget d'un pont? Alors, il y en a beaucoup de budgets. J'ai même été obligé de faire un petit article dans le Moniteur des travaux publics pour expliquer combien avait coûté le pont de Normandie. Parce que les gens disaient à peu près n'importe quoi. La première estimation du pont de Normandie, je crois que c'était à peu près, je crois peut-être 880 millions de francs ou 900 millions de francs, quelque chose comme ça. Voilà. Et les gens ont dit, à l'arrivée, il a coûté 2,7 milliards, donc... trois fois plus. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'on compare des carottes et des navets. C'est d'abord, en plus des travaux proprement dit. Alors les travaux proprement dit, ils ont dû coûter 1,2 milliard ou quelque chose comme ça, hein, à peu près. Je me souviens plus exactement. Mais vous avez les travaux proprement dit. Mais vous avez d'abord tout ce qui est avant. Les études en soufflerie, les expropriations, la construction des voies d'accès. Dans le cas du pont de Normandie, comme il y avait eu un premier appel d'offres qui avait été trop cher, et il a été décidé, ça c'est une décision de Roubaix soutenue par la direction des routes, de faire un marché séparé pour construire une protection du pylône nord par un marché séparé, et de construire un pont d'accès provisoire pour les travaux. Donc voilà. Derrière, il y a donc tout ça qui s'ajoute les uns aux autres. Et puis derrière, il y a surtout les frais financiers. Parce que la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, elle n'avait pas l'argent dans sa poche revolver. Donc, il faut emprunter de l'argent pour pouvoir payer les travaux. Mais derrière, l'argent, il ne va venir que par les péages. Mais les péages, ils ne vont pas rembourser tout de suite. Donc, il faut emprunter beaucoup d'argent. Parce qu'au début, vous n'arriverez pas, avec les péages, à rembourser les emprunts. Donc, si vous voulez, il y a des frais financiers, et ces frais financiers, ça représentait plus de 700 millions de francs. Voilà. Donc, attention à ce qu'est le prix d'un ouvrage, c'est pas forcément ce qu'on croit.
Où Michel Virlogeux est construit un pont? Qu'est-ce qui est construit sur place? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas construites sur place?
Voilà. Alors, il y a deux choses différentes. Tout ce qui est béton, quand c'est du béton coulé en place, il est construit sur place. Dans certains ouvrages, ce qui n'est le cas ni du pont de Normandie, ni du viaduc de Millau, on peut préfabriquer des pièces en béton et les transporter. Mais ça, c'est pas notre cas. Bien sûr, le problème, c'est celui de la charpente métallique. Alors, la charpente métallique, bien d'abord, on fait des tôles dans des aciéries. Ces tôles, on va fabriquer, on va les fabriquer dans une usine et les assembler. Alors, dans le cas du pont de Normandie, les tôles étaient, alors, quand tu dis fabriquer, c'est-à-dire qu'on va recevoir d'usines des grandes tôles qu'on va découper, tracer, découper et qu'on va raidir. Parce que si vous faites une simple tôle comme ça, dès que vous allez mettre des efforts, ça va faire de l'accordéon, ça tiendra pas. Donc il faut souder des raidisseurs, ce qu'on appelle des OG. Longitudinalement, c'est des OG. Transversalement, ce qu'on appelle des diaphragmes. Donc, cette fabrication d'assemblage était faite près du pont de Tancarville. Il y avait dans une aire qui permettait de le faire pour une grande partie du tablier. Seules les parties latérales du caisson, qui étaient avec des pièces plus épaisses et tout, n'étaient pas fabriquées sur place, mais dans des usines dans l'est de la France. De même, les pièces d'ancrage des haubans dans les pylônes étaient fabriquées dans l'est de la France. Amenées, et on faisait l'assemblage au chantier, enfin l'usine foraine près du pont de Tancarville. On mettait les voussoirs de 19,65 m de long sur une barge, poussée par un pousseur pour arriver sous le pont de Normandie, et là on les levait avec un derrick pour venir les lever, les ajuster et les souder sur la partie déjà construite. Voilà.
Vous avez dit que le pont de Normandie était au moment de son inauguration le plus haut pont à haubans du monde. Il a été dépassé dans ce record maintenant.
Alors, c'était la plus grande portée.
Ah, la plus grande portée. Ah oui, la plus grande portée.
856 mètres. Hein, oui. Sachant que quand on a commencé le projet, la plus grande portée de pont haubans dans le monde, c'était 465 mètres.
Hein, ah oui.
Donc on a fait un très grand pas en avant.
Le double, presque le
c'est
double.
C'est le premier pont haubans qui rentrait en concurrence avec les ponts suspendus. Voilà. Alors, il a été battu relativement vite au Japon par le pont de Tatara, 4 ans après. Excusez-moi pour la date, je dis des bêtises, ça doit être 98 alors. Voilà. Bon. En même temps que les autres ponts du Donchuchikoku. Sachant que les Japonais m'avaient pris comme conseil technique, plus pour la forme que pour autre chose, pour le pont de Tatara, qui est un très joli pont, parce que les ponts japonais ne le sont pas toujours, mais celui-là est très très beau.
Pourtant, ils ont des architectes doués.
Non, ils n'ont pas d'architecte, les Japonais, ils ont
des ingénieurs. Tadao Ando.
Ah oui, mais Ando, il a fait... c'est un grand architecte, hein, ouais. Attention. Hein, mais il a fait qu'un seul pont, c'est pas terrible. Hein.
D'accord. Voilà. Et le viaduc de Millau.
Alors,
Michel Virloge, comment...
Alors, le viaduc de Millau...
Quelle est son histoire?
C'est une histoire beaucoup plus compliquée, hein. Le viaduc de Millau, il faut remonter à pas mal. La route qui traverse le Massif Central, c'était la route nationale 90, qui partait de Clermont-Ferrand et qui descendait, je ne sais plus, peut-être à Béziers, je ne sais plus où exactement dans le sud. En tout cas, tout le Massif Central, c'est de la 90. Et cette route, elle était très difficile, parce que le Massif Central, c'est des collines et des vallées. Et donc, à chaque fois, il fallait descendre dans la vallée, remonter la vallée, descendre la vallée. Et le ministère de l'Équipement, qui n'avait pas beaucoup de sous, essayait d'aménager, mais comme les vallées, c'était compliqué, ils aménageaient surtout sur les plateaux, hein, là où c'était facile et où ça coûtait pas cher. Donc en fait, c'était pas génial, voilà. Et donc en 1986, alors là, on était, c'était Mitterrand, mais Chirac était Premier ministre, il a organisé un séminaire d'aménagement du territoire à Clermont-Ferrand, où il y avait Giscard d'Estaing. Et là, on a Giscard d'Estaing, à l'issue de ce... Il y a des décisions qui avaient été prises pour aménager la RN 90, etc. Et là, Giscard d'Estaing a parlé de l'autoroute Clermont-Ferrand-Béziers. En fait, c'était pas une autoroute, c'était prévu de faire une voie express. Ce qui est pas le même budget, on y reviendra. Je crois que c'était, en gros, une voie express, c'était prévu à peu près pour 5 milliards. Personne n'a osé lui dire que c'était pas une autoroute. Et donc, on a continué les travaux en partant du nord. Alors, la partie du Puy-de-Dôme était déjà faite. Et donc, on a attaqué derrière, c'était le Cantal. Et dans le Cantal, on a donc fait un projet autoroutier. Et on continuait, donc Cantal, on est passé à l'Aveyron. Et cette fois, avec des caractéristiques autoroutières. Avec une conséquence évidente, c'est que au bout des 5 milliards, il n'y avait plus de sous, évidemment. Bon. Et là, on a commencé, par contre, là, on a traversé les vallées d'une façon remarquable, en particulier pour traverser la vallée de la Truyère, tout près du viaduc de Garabit. On avait des précautions qui avaient été prises bien avant par le directeur des routes pour fixer le tracé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de covisibilité. Moi, j'étais allé sur place avec Arsac, d'ailleurs.
Hein. De covisibilité.
De covisibilité.
Ah, de covisibilité.
Avec, covisibilité, oui. Excusez-moi. Mm. Voilà. Bref. Et donc, on a commencé à s'inquiéter de savoir comment on allait traverser à Millau. Et donc, les études sur Millau ont commencé par une recherche de tracé routier en 1987. Très peu de temps après, voilà. Puis, ça a pas mal traîné. Et donc, là, il y a eu énormément de débats. C'est-à-dire que, où faire passer? Donc, ça, il y a toute une histoire, si vous voulez. Il y avait pas mal de tracés qui étaient envisagés au début. Un tout à fait, un grand test, où on aurait fait deux ponts suspendus au-dessus du Tarn et de la Dourbie, mais on pouvait pas desservir Millau. Alors là, évidemment, c'était même pas la peine d'aller le montrer aux élus, on se serait fait fusiller sur place. Il y en avait un autre qui suivait la NRN 90 et qui remontait, mais qui était une connerie technique, parce qu'on remontait de pratiquement sur le long de la route actuelle, c'était catastrophique. Et la ville de Millau s'y opposait, parce que ça bloquait le développement de la ville vers l'est. Puis les routiers avaient imaginé un troisième tracé, par ce qu'on appelle le cirque d'Isis, là, qui était très bien parce que ça permettait de faire des pentes, mais évidemment c'était toutes les argiles dégueulasses du coin, donc c'était impossible. Et donc on s'est retrouvé dans un truc coincé, jusqu'à ce qu'on toute une petite équipe descende. Il y avait Monsieur Gaudemer, qui était l'ingénieur général chargé de ça. Il y avait Georges Gillet, qui était l'ingénieur local. Il y avait mon adjoint Emmanuel Bouchon et moi. Et on est allé là, j'ai vu un tracé possible, qui n'est pas celui qui a été retenu, où on descendait légèrement dans la vallée, on franchissait le Tarn par un petit pont au banc, on mettait un échangeur sur ce qu'on appelle le plateau de France, qui est un plateau intermédiaire entre le Causse Rouge au nord et le plateau du Larzac au sud, on remontait dans un viaduc et on pénétrait dans le Larzac par un tunnel. Donc ça paraissait possible. Alors, je parle sur des histoires un petit peu sordides, là où il y avait un comité d'experts créé par le directeur des routes, avec quatre experts dont je faisais partie, et il y en a un des quatre qui a fait le rapport tout seul et qui l'a signé en imitant nos... Enfin, en mettant nos noms comme si on avait été d'accord. Bon, ça, c'est une histoire de fou, bon, bref. Donc, on a bloqué ça, et puis là, il y a eu un mec vachement plus intelligent que nous, c'était un ingénieur routier, qui s'appelait Jacques Soubiran, qui voyait le tracé, là, on travaillait pour l'améliorer, là, tout le truc, voilà. Il dit, mais pourquoi vous descendez dans la vallée? Et voilà, on est resté comme des cons. Parce qu'on s'était auto-censuré. Parce que rester en haut, ça voulait dire des piles très très hautes. 240 mètres, hein, 245, je crois. On s'était auto-censuré. On n'avait même pas pensé le faire. Et puis on lui a dit, t'as raison. 8 jours après, Gillet nous a envoyé des cartes avec un tracé. Et là, c'est là que j'ai pendu. C'était un drap de lit qui faisait 5 mètres de long, qu'on a punaisé par des punaises magnétiques là sur le mur, et avec un feutre on a commencé avec Bouchon à travailler, et là on a commencé à esquisser le viaduc de Millau. Alors et j'ai quand même un peu zappé parce que j'ai oublié le plus important. Pourquoi le viaduc de Millau? Il y avait une première raison, c'était présenter une alternative à la vallée du Rhône pour aller vers l'Espagne, parce que la vallée du Rhône est complètement saturée. Et puis le deuxième, c'est permettre le développement du Massif central. Et ça, c'est tellement important que tous les élus ont tout fait pour faciliter la construction de l'autoroute A75, puisque c'est devenu l'autoroute A75. Et là, toutes les discussions, tout ça, ça s'est fait en excellente harmonie avec les élus. Vic de Millau, on a été soutenu, à part les écologistes, sauf Beauvais, il s'est bien gardé d'aller se mettre son doigt là-dedans, mais tous les partis politiques ont soutenu. Que ce soit le premier maire qui était socialiste, après ça a été Monsieur Gérard de Ruy, après ça a été Jacques Godefroy, qui était chiracien, le sénateur de Ruy, qui était lui plutôt giscardien, le sénateur Cellier, pardon. a créé une association pour l'autoroute A75. Et même quand il y avait des, pour les tracés dans le massif central, les gens allaient discuter avec les élus, et les élus, ils disaient, voilà, bon, où est-ce qu'on peut passer, où ça fait le moins de mal? Parce que de toute façon, ils voulaient l'autoroute, parce qu'ils en avaient besoin pour ne pas crever, quoi. Alors, il y avait évidemment des gens qui disaient, oui, ça va tuer le commerce de Millau, les gens descendront plus à Millau. C'est absolument le contraire, hein. C'est les gens, l'industrie de la peau, l'industrie principale de Millau, qui était en train de crever, est complètement repartie. Donc, si vous voulez, la ville de Millau a repris du poil de la bête grâce au viaduc.
Oui. Il y a eu beaucoup d'expropriations?
Très très peu, parce que on n'a pas touché une maison. Je crois que l'autoroute A75, je peux me tromper, mais l'autoroute A75 n'a pas touché une maison. Alors, il y a quelque chose de très très amusant. Moi, quand on prend l'autoroute A75, on voit tout de suite que la partie qui est dans le Puy-de-Dôme a été traitée comme une voie express. Hein. Elle n'a pas les mêmes caractéristiques. On a plus de montées et de descentes, on a des virages plus serrés, on n'a pas toujours de bande d'arrêt d'urgence. Dès qu'on arrive dans la partie post-Giscard, si je dois aussi m'exprimer, à post-La Réunion, là, on est sur une vraie autoroute. Et puis c'est complètement différent, on a vraiment une excellente autoroute. Quoi. Et on voit la différence tout de suite. C'est-à-dire qu'un conducteur qui ouvre les yeux, il voit bien que il n'est pas sur la même nature de route. Et il y a autre chose qui est encore plus amusant. On ne la voit pas de la même façon quand on descend vers le sud et quand on remonte vers le nord. Quand vous remontez vers le nord, vous voyez toutes les faces sud des collines. Et c'est là qu'elles sont riantes, elles sont une belle végétation, les villages. Elle est beaucoup plus belle quand on remonte que quand on descend.
C'est parmi vos réalisations, vos conceptions, celle dont vous êtes le plus... fier.
Il y en a pas mal dont je suis fier quand même. Mmh. Il y a le pont de Normandie, bien sûr, qui est le préféré de ma femme d'ailleurs. Le viaduc de Millau. Il y a le pont de Térénès, qui est un petit bijou. Hein, il y a le pont Yavuz Sultan Selim. C'est quand même, aujourd'hui l'un des plus grands ponts du monde. Hein, c'est le plus grand pont ferroviaire. Enfin bon, c'est... Et puis j'aime bien le pont de Bordeaux, le pont Jacques Chaban-Elmas. Il est très beau.
Vous l'avez conçu en quelle année?
Alors, ça, c'est un pont mobile, et là, on est beaucoup à être concepteur. Hein. Là, on est, pour en Turquie, c'est avec Jean-François Klein. Là, on est beaucoup, parce que un pont mobile, il faut faire appel à des gens qui sont des spécialistes de mécanismes, d'électricité, à tout un tas de choses, si vous voulez, qui jouent. Et puis là, c'est à nouveau Charles Lavigne, auquel a succédé son fils, d'ailleurs, Thomas. Et puis, il y avait Jean-Marc Tanis aussi, d'Egis. Voilà.
Pourquoi était-ce nécessaire de faire un pont mobile?
Ah ben, parce que tout simplement, on pouvait pas faire autrement. C'est un pont urbain. Et il faut aller de quai à quai. Bon, de quai à quai, comme les Bordelais tenaient absolument à ce que les grands bateaux de croisière puissent arriver jusqu'au port de la Lune, devant la place de la Bourse, devant tout le cœur de Bordeaux, il fallait que les grands bateaux puissent passer. Donc, un pont bas, c'était interdit. De façon générale, les bateaux peuvent aller jusqu'au pont de pierre, hein, qui a été construit, lancé par Napoléon pour permettre aux armées de passer, mais il n'a pas été fini à temps. Enfin bon, bref. Donc là, on peut aller jusqu'au pont de pierre. Et les Bordelais ne voulaient pas bloquer ça. Et donc... ou bien il fallait faire un pont haut comme le pont d'Aquitaine, donc à 55 mètres de haut. Mais ça ne répondait pas à l'objectif, c'est pas un pont urbain. Parce que vous pouvez pas aller de quai à quai. Avec la hauteur, avec les pentes, vous êtes à Pétaouchnok de chaque côté. De même, il y a eu un certain nombre de personnes qui voulaient un tunnel, mais c'était aussi mauvais. Parce qu'un tunnel, il faut passer profond, d'autant que les fonds de la Garonne, c'est pas de la fête, hein, c'est de la vase, hein. Donc il fallait descendre assez profond. Et donc, là encore, il fallait partir 400 ou 500 mètres avant. Donc ce n'était pas un pont urbain. Or, l'objectif de clairement afficher des Bordelais, en particulier d'Alain Juppé, hein, mais en accord avec les autres, y compris politiquement, hein, Bordeaux, c'est encore un endroit où il y a une unanimité politique pour ce genre de choses. Hein. Je raconte une petite histoire. Il fallait un pont urbain, parce que l'objectif était quand même de réunir les rives gauche et droite, et donc il fallait recréer une ceinture de boulevard qui n'est pas fer... qui n'arrive pas à fermer aujourd'hui parce que le pont Hamon, hein, qui était le pont Jean-Jacques Bosque, est toujours bloqué parce que les travaux ont été arrêtés. Enfin, c'est une histoire sordide. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'était bien de refaire une ceinture de boulevard urbain qui associe la rive gauche et la rive droite, de façon à recréer une unité.
Vous avez raconté hier soir l'inauguration du pont de Normandie avec Charles Pasqua qui s'est endormi. Comment s'est passée l'inauguration du viaduc de Millau?
Alors ça, c'était complètement différent. L'inauguration a été... Alors, la première pierre a été posée par monsieur Jean-Claude Guessot, qui était communiste. Un communiste qui signe quand même une concession privée, c'est pas mal, hein. Bon. Et l'inauguration par Jacques Chirac. Alors, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Il est arrivé par l'aéroport du Larzac. Alors, on avait mis sur le sur le pont, il y avait un tout petit groupe de personnalités. Il y avait évidemment Jean-François Roverato, Foster, Jean-Claude Guessot, Jacques Godefrin. J'avais le privilège d'y être avec quelques autres. Et puis, il y avait 300 ouvriers des Fages. Hein, avec Jean Guénard, qui était le patron des Fages Construction. 300 ouvriers là. Un petit peu à l'écart du premier groupe. Donc le Chirac arrive, il descend de bagnole, et là, il a fait. Alors, je veux dire que ça fait plaisir. Et puis il est arrivé, il a descendu la plaque d'inauguration, la patrouille de France est passée. Et puis là, le petit groupe des personnes ont descendu pour aller. Dans ma tente, là, pour les discours et le truc. Et Chirac est allé voir les ouvriers. On l'a attendu une heure. Il a serré la main et discuté avec les 300 ouvriers. C'est Chirac tout pur. Il est descendu, il y a eu des discours, comme d'habitude, assez sans intérêt. Et puis après, un cocktail. Il est resté deux heures. Il bavardait avec tout le monde. Alors là, Chirac, il avait un contact humain absolument phénoménal. Et les ouvriers chialaient, hein. Ils disaient, on ne refera jamais un truc pareil. Et ils pleuraient, les ouvriers.
Michel Virlogeux, puisqu'il y a des modes dans les ponts, le pont, et qu'elles sont dépassées très vite, le pont d'aujourd'hui, à la mode, ou de demain, il ressemble à quoi?
Alors, ça dépend qui va le faire, hein, parce qu'on peut faire des ponts très tordus, très très arbiscotés, il y a des spécialistes pour ça, que je n'aime pas du tout, ou bien on peut rester dans le style rigoureux et créer l'élégance par la simplicité, par la rigueur et par une organisation intelligente de la matière.
Je vous remercie beaucoup.
Merci madame, c'est un plaisir.
Fin de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Michel Virlogeux. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Yann Frécy, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.